Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
La fondation de la résistance, et pour ceux qui étaient là déjà ce matin, vous l'aurez compris, ce n'est pas la dernière fois que nous aurons plaisir de monter avec vous, monsieur le président, monsieur le directeur général et toute l'équipe, des opérations concrètes ici en Haute-Garonne autour de l'histoire de la résistance. Parce que moi, je vais vous dire, ma conclusion après cette première matinée qui était déjà très riche, c'est qu'est-ce que ça fait du bien de parler de résistance ? Chacun comprendra ce besoin de toutes les manières qu'il souhaite. Nous avons ce matin brossé les grandes lignes, mais de manière précise, grandes lignes n'étant nécessairement absolument pas péjoratif, de ce monde de la résistance, des valeurs qui s'y jouent. Et on a même parlé de cette évocation de la notion de valeur de la résistance en voyant à quel point parfois les mots peuvent être des pièges. Nous allons cet après-midi rentrer en zoomant autour de cette réunion du Conseil national de la résistance qui, il y a 80 ans, rue du Four, a posé un jalon essentiel à la fois dans l'action de la résistance, mais dans la construction de la République. Je ne sais pas s'il faut parler de reconstruction ou de renforcement, ou c'est les sujets qui nous agite depuis ce matin. Je vois Jean-Marie Guillon qui rit parce que ça signifie que je n'ai pas tout à fait mal compris peut-être son intervention. En tous les cas, nous allons poursuivre cet après-midi avec, dans l'ordre des intervenants, Franz Malassis, Claire Andrieux et Bruno Leroux. Je présenterai chacun des intervenants les uns après les autres. La seconde table ronde suivra sera une mise en perspective sur les usages du CNR. Stéphane Prouser, Raphaël Belon et Jean-Jacques Mirassou. Jean-Jacques Mirassou, qui interviendra à plusieurs titres, notamment en tant que président de l'ANACRE, du département de Haute-Garonne, mais surtout aujourd'hui de se livrer à l'exercice du législateur qui proposa la création d'une journée de la résistance, pour qu'il y ait résonance justement sur ces usages aujourd'hui et peut-être les usages souhaités. Ce sera l'occasion d'aborder tout cela. Après quoi, Elérica Leroy, qui n'a pas pu ce matin pour des questions liées à sa mission de présidente d'association Forain François Verdier, nous parler de Forain François Verdier, nous proposera une conférence d'une vingtaine de minutes sur une figure de l'unification de la résistance ô combien importante ici en région R4 et à Toulouse en particulier. Ce qui, tu vois Jacques, les choses sont bien faites, te permettra de finaliser cette synthèse de la journée. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Il me reste à présenter Franz Malassis, que nous connaissons bien, pour qui fraye avec la Fondation de la Résistance, tant il est important dans sa responsabilité des publications de la Fondation de la Résistance. C'est aussi un connaisseur précis, exigeant et très honnête de ce monde de la clandestinité, de la résistance intérieure. Et mon cher Franz, tu vas rentrer dans l'organisation concrète de la réunion du CNR, car cela ne fut pas une mince affaire que d'organiser rue du Four une telle journée. Je te laisse la parole, tu as 20 minutes et j'aurai cet affreux rôle de censeur du temps.
Merci Antoine. Eh bien effectivement, ce n'était pas une mince affaire. Et la réunion donc constitutive du Conseil national de la Résistance, qui se tient à Paris le 27 mai 1943, en plein Paris occupé, est véritablement un exploit. Jean Moulin accomplit là un véritable tour de force. Il réussit en moins de 10 semaines à mener à bien la tâche que lui a confiée le général de Gaulle, c'est-à-dire sa seconde mission, et de faire asseoir à la même table les responsables des mouvements de résistance, les organisations syndicales et surtout les partis politiques. Lors de cette réunion inaugurale, ils vont se rallier au général de Gaulle, amenant ainsi un soutien et une légitimité démocratique au général de Gaulle aux yeux des alliés. Et pourtant, la partie n'était pas jouée d'avance. Durant l'organisation de cette première réunion du Conseil de la Résistance, étape fondamentale dans l'unification de la Résistance, eh bien, les oppositions ont été très vives et les obstacles ont été nombreux. Et il faut vraiment tout le talent de négociateur et tout, toute l'autorité de Jean Moulin pour que ce Conseil national voie le jour et puisse être mis en place selon les demandes du général de Gaulle. En effet, depuis novembre, alors voyons les difficultés donc pour organiser cette première réunion. Depuis novembre 1942 et le débarquement américain en Algérie et au Maroc, le général de Gaulle est dans une mauvaise passe. Il est véritablement marginalisé. Il n'a pas été prévenu des opérations militaires, mais surtout, encore plus grave, le président Roosevelt se méfie de ses ambitions politiques. Il considère qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Et les Américains vont négocier avec les autorités en place, les autorités de Vichy, le général Darlan, l'amiral Darlan et ensuite le général Giraud. Alors, général Giraud, s'il veut reprendre la guerre, ne désavoue pas pour autant Vichy, et il maintient d'ailleurs toute la législation de Vichy, y compris la législation antisémite. Malgré cela, néanmoins, le général Giraud est désigné comme chef militaire et civil des territoires libérés en Afrique du Nord. Donc tout le travail mené par la France libre depuis le 18 juin 1940 pour à la fois maintenir la France au combat aux côtés des alliés, mais surtout apporter un renouveau démocratique à la libération, semble ruiné. C'est dans ce contexte qu'il lui faut obtenir le ralliement de l'ensemble des organisations de résistance de zone nord, mais aussi de zone sud. C'était jusqu'à présent un objectif stratégique. Désormais, c'est un enjeu de survie politique. Cependant, de Gaulle sait qu'il doit aller plus loin pour prouver sa légitimité aux yeux des alliés. Et il demande donc à Jean Moulin de créer un conseil de la résistance qui, selon les instructions du 21 février 1943, assure, je cite, « la représentation des groupements de résistance, des formations politiques résistantes et des syndicats ouvriers résistants ». Dans le cadre de cette nouvelle mission, Jean Moulin a les pleins pouvoirs. Il est ministre du Conseil national. Il est l'unique représentant du général de Gaulle pour tout le territoire. Et aussi, il est le futur président de ce nouveau Conseil. Moulin quitte donc Londres le 20 mars 1943, donc avec ses nouvelles instructions, à bord d'un Lysander, que vous voyez ici sur l'écran. Donc c'était un avion monomoteur qui permettait d'assurer les liaisons nocturnes et clandestines entre Londres et la France, et il est déposé en France. Dans l'optique de négocier plus facilement avec les organisations de zone nord, il s'installe à Paris et non plus à Lyon, comme ce fut le cas lors de sa première mission. C'est aussi un intérêt stratégique et surtout symbolique, parce que cette première réunion du Conseil de la Résistance doit se tenir dans la capitale. Néanmoins, il va fréquemment faire des voyages à Lyon, où sont installés les mouvements unis de la Résistance, qu'il avait contribué à fusionner. Donc c'était sa première mission, la mission Rex, où il va unifier les mouvements de zone sud pour justement combat Libération Sud et Franc-Tireur, qui vont se transformer en mouvements unis de la Résistance. Donc il fait des allers-retours à Lyon pour maintenir le contact avec les chefs de la zone sud. Jusqu'alors, dans sa mission d'unification, Jean Moulin s'était appuyé sur les mouvements de résistance plutôt que sur les partis politiques qui étaient considérés comme discrédités au moment de la défaite. Dans ce nouveau contexte, il est contraint de changer catégoriquement de stratégie. En effet, aux yeux des alliés, les mouvements de résistance dont les chefs n'ont pas de passé politique avant-guerre, ces mouvements ne représentent pas grand-chose aux yeux des alliés. À l'inverse, les syndicats et les partis politiques, même s'ils se sont montrés hésitants à rentrer en résistance, ont, eux, une grande notoriété sur le plan international. Mais la question d'intégrer les partis politiques et les syndicats, aux côtés des mouvements de résistance, va être à l'origine de vives tensions, et Jean Moulin va se heurter à de nombreuses oppositions. Il est confronté tout d'abord à l'opposition des principaux mouvements de résistance. C'était assez prévisible. Il avait été confronté à ce problème lors de sa première mission. Ceux-ci, en fait, craignent deux choses. D'une part, la confiscation de la résistance au préfet du général de Gaulle. Mais surtout, ils renâclent à l'idée de voir les institutions traditionnelles, les partis politiques et les syndicats, être remis en selle et donc être intégrés dans ce futur conseil. En plus, les chefs historiques des mouvements, il ne faut pas l'oublier, étaient animés par une volonté de recomposer le champ politique au moment de la libération. Donc ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée de ces anciens partis. Henri Freinet, que vous avez ici à gauche, hein, chef de mouvement combat, et Emmanuel Dacier de la Vigerie pour Libération Sud, vont mener une véritable fronde. Ils vont tenter de convaincre leurs homologues du zone nord de s'opposer à ce projet d'intégration des partis. Jean Moulin doit faire également face à une autre opposition, qui est de son propre camp, cette fois-ci, du camp de la France libre. En effet, début 1943, deux autres représentants de la France libre, affiliés au BCRA, Bureau central de renseignement et d'action, sont envoyés par le général de Gaulle pour assurer l'unification de la zone nord. Il s'agit de la mission Arquebus-Brumaire. Et Pierre Brossolette, alias Brumaire, et André de Vavrin, alias Passy, sont tous deux hostile au projet d'intégrer les partis politiques dans ce futur organisme chargé d'unifier la résistance. Tous deux vont s'opposer violemment à Jean Moulin. Dans cette bataille du Conseil de la Résistance, Jean Moulin doit user véritablement de tous ses talents de haut commis d'un état gaullien virtuel, selon l'expression de Jean-Pierre Azéma. Il doit faire aussi preuve de toute son autorité pour imposer la création de ce conseil selon les directives précises qu'il a reçues du général de Gaulle. Alors malgré son unification, son succès dans l'unification des mouvements de zone nord, eh bien Pierre Brossolette est rappelé à Londres à la demande de Jean Moulin parce qu'il considère qu'il n'applique pas, il fait fi en fait des ordres que lui a confiés le général de Gaulle. Pour faire entrer Henri Freinet dans le rang, eh bien, Jean Moulin menace de lui couper les vivres et de supprimer toute aide à son mouvement, aide financière, mais aussi aide en armement. Enfin, Jean Moulin peut compter, malgré tout, sur des soutiens de certains chefs. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Lévy, qui est chef national de franc-tireur, qui va lui apporter véritablement un soutien et qui fera office de conciliateur dans les réunions souvent très tendues entre Max et les mouvements de la résistance. Alors, il y a ces oppositions, mais il y a aussi des difficultés liées à la période, liées à la clandestinité. En effet, la plupart des chefs, les chefs de file de partis politiques, eh bien, sont soit internés, comme Léon Blum pour la SFIO, ou Paul Reynaud, qui est le chef de file d'un parti de droite modérée, l'Alliance démocratique, ou bien, eh bien d'autres sont passés dans la clandestinité parce qu'ils savent rechercher par les Allemands. Enfin, il y a la troisième catégorie de ceux qui peuvent circuler relativement facilement, mais qui ont une physionomie tellement connue du grand public que leur présence à une réunion clandestine peut poser problème. C'est le cas, par exemple, de Louis Marin, de la Fédération républicaine, dont la candidature, enfin tout au moins la présence à la première réunion du Conseil de la Résistance n'est pas souhaitée parce qu'il est trop connu du grand public. En outre, il fallait qu'aucun de ces hommes politiques n'ait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. On se souvient l'irritation dont a fait preuve Jean Moulin lorsqu'il apprend le 22 mai 1943, donc à l'avant-veille de cette première réunion inaugurale, eh bien que Joseph Laniel, eh bien pour l'Alliance démocratique, a voté les pleins pouvoirs. Il n'en est informé que 3 jours avant. Alors comme on voit, la tâche est difficile pour Jean Moulin, d'autant que les conditions de la vie clandestine, eh bien, rendent difficiles et longs les prises de rendez-vous, les transmissions de messages. Par exemple, il confie à Jacques Lecomte Boinet, donc ici à gauche sur cet écran, le soin, donc qui est le chef de ceux de la résistance, le soin de retrouver André Le Torrequer, qui avait été désigné en mars 1943 par le comité d'action socialiste, enfin le comité exécutif du Parti socialiste clandestin, pour les représenter au sein du Conseil de la résistance. En effet, Le Torrequer était parti sur le Massilien en 1940 pour poursuivre la lutte en Afrique du Nord. Et surtout, il est un des avocats qui a défendu de façon très pugnace Léon Blum lors du procès de Rion. Donc à partir du moment où la zone libre est occupée, est envahie par les Allemands, il doit passer dans les clandestinités. Donc Jacques Lecomte Boinet qui va permettre le contact à Jean, permettre de trouver le contact de André Le Torrequer et le donner à Jean Moulin. Donc c'est vraiment quelques semaines, même une semaine avant, je crois, la réunion qu'il peut avoir le contact. Autre exemple, Jacques Dubreuil-Bridel, qui va représenter la Fédération républicaine, alors qu'il n'est pas élu de ce parti, mais qu'il est simplement membre, va être retrouvé in extremis. Cette réunion devait se tenir le 25 mai 1943, et pour ces difficultés que je viens d'évoquer, eh bien, elle va être retardée de 2 jours, car Jean Moulin souhaite véritablement que les représentants des partis soient présents effectivement à cette réunion. Alors cette réunion, eh bien, c'est une réunion à haut risque. En effet, après ces négociations étant en vue, donc le Conseil national peut enfin tenir sa première réunion le 27 mai en plein Paris occupé. Au total, elle va réunir 17 hauts responsables de la résistance, dont beaucoup sont recherchés très activement par les services allemands de la répression. Pour ces raisons, son organisation va être véritablement préparée dans le plus grand secret par une équipe très restreinte autour de Jean Moulin, que sont Daniel Cordier, Robert Chambéron et Pierre Meunier. La veille au soir, dans un restaurant parisien, ils vont mettre au point les derniers détails de cette réunion à haut risque. Daniel Cordier, dans son ouvrage « Alias Caracalla », rappelle la chose suivante. Alors il dit « Théoriquement, c'est un travail de routine. En réalité, jamais une réunion n'a rassemblé un aussi grand nombre de représentants clandestins de la résistance que celle de demain. » Effectivement, c'est une réunion très risquée et donc toutes les mesures de sécurité vont être prises dans le cadre de cette tenue, dans le tenu de cette réunion. L'appartement où s'est déroulée la réunion n'a pas été choisi au hasard. Pierre Meunier, qui est comme Jean Moulin un ancien collaborateur du ministre Pierre Cotte, un ministre de l'air sous le gouvernement de Léon Blum, connaît également René Corbin, qui est également un proche collaborateur de Pierre Cotte, donc dans le gouvernement du Front populaire. Engagé très activement dans la résistance, René Corbin met à la disposition de Pierre Meunier son appartement, son domicile parisien, qui se trouve 48 rue du Four. Donc là, je vous ai mis la situation dans le 6e arrondissement, avec une vue donc, de ce quartier assez bourgeois. Et puis, vous avez une vue l'appartement qui se trouve au premier étage, vous voyez, au niveau de la plaque. Alors, cet appartement présente un certain nombre d'avantages au niveau de la sécurité. Tout d'abord, il se situe dans un quartier calme, très calme, où la surveillance est rendue facile. D'autant qu'à l'époque, les conditions de circulation pour les véhicules automobiles imposées par les Allemands fait qu'il n'y a quasiment plus que les services de répression allemands et les services français de police qui peuvent circuler avec une automobile. L'appartement, en plus, est équipé d'une ligne téléphonique qui permet de prévenir Jean Moulin en cas d'alerte. Et puis, la salle à manger est suffisamment vaste pour accueillir 17 personnes, 17 membres de ce conseil, qui pourront échanger et débattre sans que leur conversation soit entendue par le voisinage. Une fenêtre, enfin, dans la cuisine, permet de sortir par les toits. Alors, simplement, Daniel Cordier, toujours dans Alias Caracalla, nuance un petit peu les conditions de sécurité, puisqu'il dit, certes, il y a cette fenêtre qui permet de donner sur la cour, mais il n'y a pas d'issue sur une autre rue. Donc, comme il dit, c'est toujours des règles de sécurité un petit peu en trompe-l'œil, suivant son expression. L'organisation donc, de cette réunion, comportant 16 participants, est assez complexe à mettre en œuvre. Elle nécessite une coordination sans faille des membres de l'équipe constituée autour de Jean Moulin. Pour des questions de sécurité, l'adresse précise de la réunion n'a pas été communiquée aux participants. En fait, ils ont des rendez-vous séparés dans les différentes stations de métro du quartier. Donc vous voyez Saint-Sulpice, mais aussi Sèvres-Babylone, et puis il y avait aussi Saint-Germain-des-Prés. Ainsi, donc, les différents participants ont des rendez-vous avec les trois organisateurs et qui vont les mener jusqu'à la rue du Four. Ainsi, Daniel Cordier va mener depuis la station Sèvres-Babylone, j'ai placé son itinéraire en bleu, Sèvres-Babylone, il mènera tous les responsables des mouvements de zone sud qu'il a côtoyé et fréquenté à Lyon avec Jean Moulin. Tandis que Robert Chambéron et Pierre Meunier emmèneront donc les responsables de zone nord qu'ils connaissent aussi parfaitement. Ils les mèneront donc depuis la station Saint-Sulpice jusqu'à la rue du Four. Alors bien sûr, les membres des partis politiques sont aussi pris en charge par ces trois responsables, Daniel Cordier prenant en charge Joseph Laniel et Gaston Tessier. Pendant la durée de la réunion, les trois hommes assurent la surveillance du quartier. Daniel Cordier est posté à côté d'une cabine téléphonique non loin de la rue du Four pour prévenir Jean Moulin, pour prévenir Max, en cas de mouvement suspect. Tandis que Pierre Meunier et Robert Chambéron sont positionnés et font le guet autour de Saint-Sulpice. Les trois hommes ne portent pas d'armes. Jean Moulin a tenu à ce que, en fait, cette surveillance soit discrète et qu'il n'y ait pas de groupe de protection armée. Alors pourquoi ? Il craignait que si un des membres de ce groupe de protection avait été trouvé avec une arme, ça aurait tout de suite attiré l'attention sur les services de police. C'est la raison pour laquelle aucun des hommes n'est armé. C'était un choix délibéré de la part de Jean Moulin. De haute lutte, donc, Jean Moulin parvient donc à surmonter les résistances et les obstacles pour composer le Conseil de la Résistance qui va réunir le 27 mai, donc 8 mouvements de résistance, 6 partis politiques et 2 syndicats. Alors vous avez donc 4 mouvements de zone nord, ceux de la Libération, ceux de la Résistance, Libération Nord, l'organisation civile et militaire, les 3 mouvements de zone sud qui étaient déjà unifiés au sein des murs, Combat, Franc-Tireur et Libération Sud, et puis un mouvement qui en fait se trouve sur les 2 zones, c'est le mouvement du Front National. Parmi les 6 partis politiques, vous avez donc 4 partis de gauche, avec le Parti communiste clandestin, le Parti socialiste ou la SFIO, le Parti radical socialiste, le Parti démocrate chrétien, et puis 2 partis de droite républicains, de la droite républicaine, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine. Et puis enfin, 2 grandes organisations syndicales, avec la Confédération française des travailleurs chrétiens et la Confédération générale des travailleurs. Conscients, malgré leur divergence, de la nécessité impérieuse d'être unis, les chefs de la résistance et les représentants des partis et des organisations syndicales vont s'asseoir à la même table pour reconstituer ce parti clandestin, cet embryon de représentation nationale qu'on reconstituait dans la clandestinité. Là, je vous ai parlé des acteurs, mais... Donc, à l'époque, cette réunion est ressentie comme un moment historique. Alors, je vous ai parlé des acteurs, mais Jacques Lecomte Boynet redonne un petit peu l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de cet appartement. Et je l'ai mis en parallèle avec une photo prise après-guerre de la salle où s'est tenu effectivement le Conseil de la Résistance, sachant qu'aucun document photographique d'époque n'avait pu être, bien sûr, constitué pour des raisons de sécurité. Voilà ce que dit Jacques Lecomte Boynet. Ce 27 mai, nous nous trouvons réunis rue du Four dans un salon très petit bourgeois, résistants et hommes politiques arrivant par petits paquets, conduits par les secrétaires de la délégation du général à Paris. À 2h30, tous les membres du Conseil étaient là. Nous prenons place autour de la salle à manger, éclairée au centre par une suspension 1900. Les volets étaient clos par mesure de sécurité. Tout de suite, ouvrant la réunion, Jean Moulin rappelle les buts de la France combattante, qui sont au nombre de 4. Faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines dans un État garantissant la justice sociale et enfin travailler avec les alliés à l'établissement d'une collaboration internationale économique et spirituelle dans un monde où la France retrouverait son prestige. Moulin entreprend ensuite la lecture d'un message du général de Gaulle, le message qu'il a reçu le 22 mai 1943, message manuscrit, où le général de Gaulle exhorte à une unité par l'action pour, dit-il, notre intérêt immédiat, notre grandeur de demain et même notre indépendance. Georges Bidault, alors, le représentant du Parti démocratique populaire, prend la parole pour présenter une motion qu'il a rédigée avec Jean Moulin, ce texte se présente comme une réponse au général de Gaulle, et cette motion affirme le rétablissement d'une république démocratique dont, je cite, le gouvernement provisoire répudierait une fois pour toutes, officiellement et dans les faits, la dictature de Vichy. C'est aussi un texte qui affiche l'unité de la résistance française, laquelle se place sous l'autorité du général de Gaulle. Cette motion demande en fait à ce que ce gouvernement, je cite, soit confié au général de Gaulle, qui fut l'âme de la résistance aux jours les plus sombres et qui n'a cessé depuis le 18 juin 1940 de préparer en pleine lucidité et en pleine indépendance, la renaissance de la patrie détruite comme des libertés démocratiques déchirées. Alors, quelques participants font part de points de divergence, notamment sur le dernier aspect du texte. C'est le cas notamment de Pierre Villon, qui représente le Front National et qui interpelle Jean Moulin pour qu'une attitude de neutralité entre De Gaulle et Giraud soit adoptée par le Conseil de la Résistance. Devant la fermeté de Jean Moulin, il n'insiste pas et vote comme un seul homme la motion qui est votée par l'ensemble des participants. Invoquant des raisons de sécurité, Jean Moulin lève la séance au bout de 2 heures d'échange. Depuis son poste de surveillance à l'extérieur, Daniel Cordier voit sortir d'abord André Le Trocaire et puis Jean Moulin qui sort le dernier autour de 16 heures et qui lui confie la chose suivante, tout va bien. Jean Moulin après lui avoir demandé d'envoyer un télégramme donc à Londres, un télégramme qui avait été préparé pour la tenue du 25 mai, c'est pour ça que la date n'a pas été changée dans ce télégramme, c'est ce qu'explique Daniel Cordier, eh bien, va retrouver Jean Moulin dans un restaurant parisien, hein, au Duc de Bourgogne. Et Daniel Cordier rappelle que Rex choisit une... Voilà, il dit la chose suivante. Rex choisit une table au fond, s'assoit sur la banquette et me désigne une chaise en face de lui. Il tend la carte et lui dit « Je vous invite à fêter ce grand jour. » C'est la seule allusion à la première séance du Conseil de la Résistance dont il ne dit mot. En effet, pour ne pas être repéré dans les différents lieux publics, Jean Moulin avait pris l'habitude de ne parler que d'art ou de peinture. Et en effet, passé dans la clandestinité, son goût pour l'art, hein, vous savez qu'il est dessiné sous le nom de Romanin, qu'il avait ouvert d'ailleurs le 9 février 1943 à Nice, une galerie d'art qui s'appelait Romanin, précisément, eh bien, en fait, il a pris l'habitude de prendre, pour donner le change, d'avoir des conversations sur l'art et sur la peinture, deux choses qu'il connaissait bien. Après la réunion, Jacques Le Comboisnet également... Attendez, là, je vais un petit peu en avant. Voilà. Jacques Le Comboisnet confiera aussi une réflexion assez intéressante. « Nous avons tous le sentiment d'avoir accompli là un acte d'une grande portée. » tant au point de vue intérieur que du point de vue extérieur. Et il poursuit en disant, et très ému, voilà. Je dis à Lenormand, hein, Lenormand c'est le pseudonyme de Roger Cocoin, avec lequel je descends l'escalier, et voilà ce qu'il lui dit, après avoir vécu une telle journée, on est regonflé pour longtemps. Malgré tout, eh bien, cette première réunion du Conseil national de la Résistance, qui a été une véritable réussite, eh bien, le premier président du Conseil, Jean Moulin, n'aura malheureusement pas le temps de voir cette résistance unifiée en action. Il est arrêté quelques semaines plus tard, hein, vous le savez tous, le 21 juin à Caluire. Et parmi les 17 représentants, les 17 participants à cette réunion inaugurale, 8 seront arrêtés. En plus de Jean Moulin, 2 autres trouveront la mort. Roger Cocoin, hein, qui est arrêté et qui va tenter de s'échapper, sera abattu par les Allemands le 29 décembre 1943. Et puis Jacques-Henri Simon, hein, qui est déporté et qui va décéder en déportation. Merci de votre attention.
Même audio, une mémoire sonore.
Nous allons donc maintenant, avec Claire Andrieux, aller vers le projet, l'adoption d'un programme pour le Conseil national de la Résistance, qui là non plus ne fut pas mince affaire de tractation, de négociation, pas plus que la réunion en elle-même de ce Conseil. Claire Andrieux, vous êtes historienne, spécialiste d'histoire politique de la France contemporaine, de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous êtes aussi la présidente du conseil scientifique de la Fondation de la Résistance. Je le dis parce que nous sommes ici à Toulouse, même si l'action n'est pas à Toulouse, ce qu'il y a dans ce livre est essentiel pour bien des thématiques de la résistance dans notre région. Vous avez commis un ouvrage remarquable récemment, enfin de nombreux, mais celui-ci nous est particulièrement utile, « Tombé du ciel », que je vous invite toutes et tous à lire ou à relire. C'est à vous, 20 minutes, et vous gagnerez du temps, parce que le temps que je fasse passer les messages en bout de table, il y aura une latence.
Donc je vais parler du programme adopté par le Conseil national de la Résistance, qui constitue un chapitre, ou qui devrait constituer un chapitre de l'histoire politique de la France contemporaine. Et on peut donc se demander où se trouve la résistance dans cette histoire, et quelle était la nécessité, en quoi était-il urgent de rédiger un programme politique quand l'urgence la plus évidente était de libérer le territoire. Et pour ce faire, je vais utiliser un livre que j'ai écrit il y a un certain temps, que j'ai intitulé « Le programme commun de la résistance », mais aussi un livre qui est paru plus récemment, en 2012, qui s'appelle L'unité sans l'union, et qui retrace différents aspects de la genèse du programme commun de gouvernement de 1972, et dans lequel il y a des réflexions qui sont utiles pour ce programme commun de 1944. Et j'utilise également un livre de sciences politiques qui s'intitule « Les programmes politiques, genèse et usage », qui lui est paru en 2018. et qui comporte aussi des réflexions dont je me suis servie pour cet exposé. Alors, je pense que vous savez que le programme qu'on appelle du CNR maintenant, et qui s'appelait littéralement Programme d'action de la résistance, a été adopté le 15 mars 1944. Mais il y a évidemment toute une préhistoire et même une avant-histoire de ce programme et dont il faut tenir compte et que je voudrais exposer. Donc je parlerai d'abord de l'avant et je montrerai comment une culture politique démocratique spécialement vivace dans les années 30, dans les années 20 et les années 30, dans l'entre-deux-guerres, a conduit à ce sentiment du devoir de rédiger un programme qui en soi n'est pas si évident qu'on pourrait le croire. Et ensuite, j'étudierai plus précisément ce que Léon Blum a appelé de ses voeux en 1942, il a appelé de ses voeux la ranimation de la vie publique. La ranimation de la vie publique, c'est son terme, donc en 1942, alors qu'il est en prison. Et cette, je dirais aujourd'hui peut-être plutôt la réanimation de la vie publique, a été finalement plutôt le programme du CNR, en est une illustration. Donc, pour ce qui est de la culture politique démocratique, dans laquelle l'injonction programmatique est profondément installée, je voudrais l'évoquer en deux temps, parce que nos hommes du CNR, il n'y avait pas de femmes, comme vous le savez, et contrairement à ce qui a été annoncé publiquement il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de femmes au Conseil national de la Résistance. Et donc, ces hommes avaient intériorisé ce devoir de rédiger un programme. Et pourquoi ? Le programme politique est un outil de la démocratie qui fait partie d'un cycle de la démocratie représentative qui commence en 1848 et qui, semble-t-il, s'estompe depuis une trentaine d'années. Ce programme, quel est le sens du mot programme ? Cela naît dans un contexte de suffrage universel. Bon, à l'époque masculin, mais tout de même un suffrage universel. Et c'est l'idée qu'on est sorti à la fois de ce qu'on pourrait résumer sous l'expression « mon nom est un programme », c'est-à-dire d'un régime soit très notabiliaire, soit aristocratique. Donc on est sorti de ce système-là. Et on est aussi, en quelque sorte, obligé d'obtenir la transparence par un écrit qui précède l'élection, pour éviter de sombrer dans un régime purement opportuniste. Et cette notion de programme est donc une réaction à la fois à, disons, l'opportunisme électoral, voire le clientélisme d'un côté, et d'un autre côté, une réaction à l'égard, en fait, de l'électorat monarchiste qu'on essaye d'amener à soi par des programmes démocratiques. Donc vous voyez que d'emblée, la notion de programme est connotée à gauche. C'est quelque chose qui naît à gauche au XIXe siècle. Et pourquoi, dans l'entre-deux-guerres, cette notion de programme s'impose ? C'est parce que les professions électorales apparaissent de plus en plus légères et de moins en moins crédibles, vu le comportement ultérieur des élus. Et donc le programme est une manière de compenser l'inefficience des professions électorales. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a une personnalité, un nom auquel cette conviction que le programme est un outil essentiel de la démocratie, chez qui cette conviction est essentielle, c'est Léon Blum. Léon Blum qui, au moment du premier cartel des gauches en 1924, au moment du deuxième cartel des gauches en 1932, essaye, propose aux radicaux, alors pas aux communistes, parce que là on est dans une période de classe contre classe et donc de séparatisme complet du Parti communiste, mais propose aux radicaux un programme commun. Et déjà il emploie l'expression et ça n'a pas de suite. Comme vous le savez, le premier programme commun qui va fonctionner, c'est celui du Front populaire. Et il est intéressant de noter que si ce programme de rassemblement populaire a pu être signé, adopté, c'est notamment grâce à un outsider de la vie politique qui est le CVIA, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui, lui, va favoriser le rapprochement des partis. C'est donc un programme qui n'est pas seulement un programme de parti politique, celui du Front populaire. Et nous arrivons, via ces précédents et via Léon Blum, en août 1942, il écrit un message qui sort de prison, parce qu'à l'époque, c'est Félix Gouin qui lui sert d'avocat et il y a du lien avec l'extérieur. Il écrit un message à ses amis, entre guillemets, dans lequel il préconise la rédaction déjà d'un programme commun d'action immédiate. Et je vais vous lire ce texte qui est révélateur de l'espace politique et intellectuel dans lequel Léon Blum se situe. Je vous le résume au passage. Je souhaiterais que, travaillant d'ailleurs à la réanimation de la vie politique et même à la résurrection des autres partis, le Parti socialiste préparera et négocia un vaste programme commun d'action immédiate. Et un peu plus loin, il parle de l'élaboration du programme du Front populaire. Et cette demande de Léon Blum va avoir une incidence immédiate sur le Parti socialiste clandestin. Donc, dans un premier temps, vous voyez là une lignée de conception de la vie politique antérieure à l'occupation et étrangère au phénomène résistant. Même le texte de Léon Blum ne reflète en rien le discours ou les pratiques résistantes. Léon Blum avait une perception très, très limitée de la résistance. On arrive ainsi au moment où un programme va pouvoir être envisagé. Mais ce n'est pas Léon Blum, et ce n'est même pas la culture démocratique de l'époque, qui est l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est la conjoncture internationale. C'est le fait qu'en novembre 1942, brusquement, il y a, on peut dire, trois Frances. Il y a Vichy, il y a Londres et il y a Alger. Et à Alger, on a un modèle de libération nationale qui n'a rien de démocratique, comme Franz Malassi vient de le dire. Et donc, c'est un choc, ce mois de novembre 1942, pour tous les résistants, je dirais, de France et de Navarre, c'est-à-dire de France métropolitaine et d'Angleterre et d'ailleurs. Et il y a donc là une volonté de réagir et de préparer la libération de telle sorte que ce ne soit pas sur le modèle d'arlaniste ou géraudiste. C'est une réaction. Et le deuxième événement d'ordre international, un peu plus tardif, mais qui va être décisif, c'est la politique soviétique, la suppression du Comintern en mai 1943, qui va avoir des conséquences sur l'attitude des communistes dans la résistance dans son ensemble. Alors, le premier point, c'est donc à l'Ouest, c'est les événements de l'Ouest qui déclenchent d'abord la création du CNR, en est un résultat, mais la rédaction d'un programme d'après-guerre aussi. Et d'ailleurs, dans le message du 10 mai 1943 que de Gaulle adresse au CNR, il y a cette idée, enfin c'est plutôt cette consigne, que le CNR doit préparer l'après-guerre. Et le CNR s'empare sans mal de la consigne. C'est un fait. Par ailleurs, les socialistes, sur l'inspiration de Léon Blum, avaient déjà produit un programme et publié un programme clandestin, évidemment, en janvier 1943. Ils le republient au mois de juin. En juillet, là, c'est le commissaire national à l'intérieur, André Philippe, qui, de Londres, André Philippe, qui est socialiste, envoie au CNR un projet de programme politique. En septembre, c'est la CGT qui présente une autre idée de programme politique pour l'après-guerre. Et en début novembre, le Conseil national d'études, qui est un organisme d'experts de la résistance, propose aussi un rapport pour la politique économique après la guerre. Et donc, il y a, si vous voulez, un foisonnement de projets, probablement, d'ailleurs, il y en a encore d'autres que ceux que je mentionne, il y a un foisonnement de projets, mais qui bute sur deux obstacles. Le premier obstacle, c'est au début, les deux droites, Alliance démocratique, Fédération républicaine du Conseil national de la résistance, refusent ces programmes qui sont socialistes, socialisants. Donc il y a un refus clair et net. Même Louis Marin dit de l'un des premiers projets, ce sont des projets nazistes. Bon. Ensuite, l'autre obstacle, c'est que le Parti communiste français n'a pas encore tiré les conséquences, ou n'a pas encore tout à fait compris, la conséquence à tirer de la suppression du Comintern. C'est-à-dire que le Parti communiste français, sur cette question précisément, reste sur la ligne, en fait, héritée du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire qu'on est encore une forme aplanie, mais quand même, de guerre impérialiste, et donc on ne s'associe pas avec les autres partis politiques. Voilà. Et ce qui change, et là on arrive à, dans la deuxième phase, la fin des tentatives échecs et le début véritablement de la discussion du programme, ce qui change, c'est à partir du moment où les communistes ont compris ce que veut dire la suppression du Comintern, ils sont d'accord pour négocier. Et donc, ils ne négocient pas en ligne directe, c'est-à-dire que c'est le Front National qui va négocier. Mais le Front National propose un texte en novembre 1943, qui a un texte qui a été discuté en amont avec Jacques Duclos. C'est-à-dire Pierre Villon et Jacques Duclos discutent en amont. C'est un texte communiste, mais présenté par le Front National pour faciliter l'accord. Et pour éviter la confrontation, ce qui s'est un peu passé en 1972, où on a eu vraiment un texte interpartisan au sens strict, il y avait confrontation socialiste-communiste. Et comme vous savez, ce programme n'a pas duré longtemps. Parce qu'il n'y avait pas la soudure, l'effet de soudure que peuvent créer des outsiders. Donc, la négociation du programme proprement dit, du programme final, elle commence en novembre 1943. Et c'est une véritable négociation, tout à fait complexe, puisque je ne vous apprends pas que dans la résistance, il n'y avait pas de téléphone, et on ne pouvait même pas utiliser le courrier. Donc, c'était des négociations au ralenti. Mais on a tout de même les phases successives. Pour vous donner une idée du climat dans la résistance, puisqu'on ne pouvait pas s'écrire ni se téléphoner, eh bien, ce qu'on s'écrivait, c'était pratiquement de l'ordre du téléphone. Et c'était extrêmement virulent. Là, ce sont des observations, des remarques du PCF sur le projet du Conseil national des études de début novembre 1943. Alors, le PCF répond au CNE. Le CNE qualifie nos observations de diatribes et soutient que, entre camarades qui luttent dans le même combat, partagent les mêmes risques, le style du pamphlet n'est pas de mise et qu'il abaisse celui qui ose s'en servir. Les mots soulignés le sont par le PCF. Ce serait déjà une question de savoir si les risques sont les mêmes entre le parti des fusillés, qui agit pour libérer la France, jour par jour, heure par heure, et un groupe d'experts qui bâtit des systèmes pour les jours fortunés d'après la libération. C'est pour vous dire le ton. C'est un ton extrêmement virulent, avec de temps en temps des accusations mutuelles de trahison de l'idéal résistant. Donc, on arrive à des négociations. Finalement, il y a toujours des obstacles. Et comment fait-on pour surmonter les obstacles et aboutir à ce programme? Parce que, encore une fois, il y avait dans la culture démocratique de l'époque et de ces hommes l'idée que c'était un devoir d'avoir un programme, que ça faisait partie des obligations démocratiques. Et pourquoi y arrive-t-on? C'est parce que justement dans le CNR, il y a des mouvements de résistance à qui on peut repasser le dossier, si je puis dire, pour qu'ils arrangent un peu la rédaction. Ensuite, on revient vers le cœur du débat qui est en fait entre socialistes et communistes. C'est là que le clivage était le plus fort. Et ensuite, on repasse au mouvement de résistance. Et de proche en proche, on arrive à un programme accepté par tous, même par les droites qui, en fait, ne prenaient pas très au sérieux ces programmes et pensaient que l'essentiel, c'était les élections constituantes ou législatives qui auraient lieu après la guerre. Donc, il y a un véritable consensus, bien que ce soit un consensus à signification variable selon les interlocuteurs. Alors, ce programme, j'en dis deux mots. J'ai encore 3 minutes.
Vous avez même plus.
Bon. Alors, il faut parler du...
Le papier n'est pas encore arrivé.
Bon. D'accord. Il faut en dire deux mots, parce que ce programme est plus compliqué qu'on ne le croirait quelquefois. C'est un programme qui fait, selon les éditions, évidemment... s'il fait une dizaine de pages, il y en aura plus de 6 sur la première partie qui s'appelle plan d'action immédiate et qui, comme son nom l'indique, n'a rien à voir avec la vie du pays après la libération, mais c'est l'organisation de la libération. Et en fait, c'est la partie qui a donné lieu aux discussions les plus féroces et les plus acharnées, parce que le Front National proposait une insurrection indéterminée dans la France entière et sans organisation, et ce qui pouvait conduire assez facilement à une organisation par le Parti communiste, qui était comme on sait, très organisé pour la lutte armée. C'était même sa spécificité. Donc, premièrement. Et deuxièmement, la partie qu'on connaît aujourd'hui, programmatique pour l'après-guerre, était beaucoup plus courte. Et dans la version originale présentée par le Front National, en fait, tout à fait conservatrice. Voilà. Bon, il s'agissait de rétablir les libertés, et, évidemment. Le vote des femmes a été inscrit, d'ailleurs. Après, il a disparu. Mais il n'y avait pas de grandes mesures de nationalisation, socialisation, même disaient certains socialistes. Il y avait cependant ce que Duclos avait appelé les retours à la nation des grands moyens de production. Alors, il me reste 4 minutes, mais ça va très bien. Et donc, tout le travail des négociations, ça a été d'abord de faire entrer dans le programme des formules qui disent, peu ou prou, parce que c'est très ambigu, que l'insurrection en France ne sera déclenchée qu'après le débarquement, et en liaison avec les alliés, et pas à toute heure, et que deuxièmement, cette insurrection sera organisée selon les principes de l'institutionnalisation de la résistance, c'est-à-dire dans un cadre pluraliste avec représentation des différentes forces. Pour la partie programmatique, en fait, c'est un peu le contraire qui se passe, c'est-à-dire autant la première partie se modère, la deuxième partie se radicalise. Et sous l'influence d'ailleurs, pas du tout des communistes qui ne demandent pas ces réformes, parce que dans l'idéologie communiste, l'essentiel c'est de prendre le pouvoir. Ensuite, la suite coulera de source. Et c'est comme ça, donc on arrive au programme du 15 mars avec plan d'action immédiate et ensuite mesures à appliquer dès la libération du territoire. Et si le vote des femmes a disparu, c'est en raison de l'opposition des radicaux qui, pour des raisons de conservatisme et aussi de crainte de l'influence de l'Église sur les femmes, ne voulaient pas que ce vote des femmes soit inscrit dans le programme. Cela aussi, j'insiste un tout petit peu parce que le chef de l'État a dit le contraire il y a quelques jours. Bon. Alors, je termine par ces considérations. En fait, on pourrait raconter l'histoire du programme du CNR sans parler de la résistance, presque. Voyez. Sauf que, s'il n'y avait pas eu les mouvements de résistance, le programme n'aurait peut-être pas pu aboutir, parce qu'on se serait retrouvé dans un face-à-face de partis politiques. Évidemment, les mouvements de résistance sont un élément essentiel de la résistance. Je crois que j'ai pas besoin de souligner. C'est aussi en raison de la résistance que les droites ont accepté le programme, hein, au nom de l'Union nationale. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'autres dans les programmes communs qui ont pu avoir lieu en France. Les droites ne sont pas partie prenante, ce sont des programmes de gauche. Et enfin, il faut voir aussi, je crois, que cette rédaction de programme, c'est une manière, en fait c'est un acte résistant en soi, car c'est une manière de prolonger l'ancien monde, le monde d'avant. C'est-à-dire c'est une façon de faire comme s'il n'y avait pas les nazis et Vichy. Et ça, déjà, en soi, c'est une forme de résistance spirituelle, intellectuelle, politique, enfin, comme on veut. Et je termine en disant que ce programme du CNR reste unique en Europe. Aucun autre pays n'a pu aboutir à ce résultat, pas pour des raisons d'absence de volonté, mais souvent pour des raisons simplement géopolitiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'unir avec les communistes en Pologne, hein. Il y avait des obstacles structurels à l'unification, même quand elle était commencée. La France a eu la chance d'être dans une situation géopolitique qui a permis cette union. Je termine ainsi.
Merci Claire Andrieux pour ces éclaircissements sur l'élaboration d'un programme qui nous disent beaucoup d'il y a 80 ans, mais j'ai vu au regard et connivence partagée, et c'est bien la grande force de l'histoire, que cela nous dit beaucoup sur aujourd'hui aussi, pour peu que l'on adopte une posture de rigueur et d'objectivité dans l'analyse des faits. Donc un très grand merci. Et pour le respect scrupuleux du temps imparti.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Bruno Leroux, nous pourrions vous présenter de bien des manières. Une porte d'entrée qui me paraît essentielle et à laquelle nombre de nos intervenants conférenciers ont participé est cette pièce essentielle qui est le dictionnaire historique de la résistance qu'il faut dans tout bon centre de documentation et d'information, dans toute bonne bibliothèque. Et chez toute personne intéressée par les questions de la résistance, il faut qu'il soit présent parce qu'on y retrouve l'ensemble de ceux qui ont écrit l'histoire de la résistance. Et donc, je le redis, une grande partie de ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Alors, vous allez, cette présentation, et je comprends mieux pourquoi vous avez insisté pour que l'on respecte scrupuleusement l'ordre de passage, passer par un autre regard, un autre observateur sur à la fois cette réunion du CNR et l'élaboration de son programme. Je n'en dévoile pas plus. Vous avez 20 minutes, Bruno.
Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais parler, en fait, tout simplement du CNR vu par un de ses membres, Jacques Lecomte-Boinet, tout simplement parce qu'il est justement un contre-exemple par rapport à ce que Laurent Douzou vous disait ce matin sur la rareté des archives et des témoignages. Jacques Lecomte-Boinet a écrit un journal clandestin de février à août 1944 où il raconte au jour le jour sa vie de membre du CNR, ça fait 500 pages au total, complété par 500 autres pages qu'il a rédigées dès 1946 sur les premières années de sa résistance. Le tout fait 1248 pages et a été publié aux éditions du Félin. C'est ardu, mais je pense vraiment que c'est un témoignage absolument unique dans le corpus des mémoires publiées de résistants. Alors avec ce témoignage, si vous voulez, je vais revisiter en fait l'histoire du CNR. Même s'il a été absent pendant 4 mois à Alger, à Londres, à l'automne 1943, et en fait les thèmes qu'on a déjà abordés, par exemple, comme Lecomte-Boinet est chef d'un mouvement de zone nord, ceux de la résistance, je vous parlerai des débuts de la résistance en zone nord, qui sont bien différents de ceux de la zone sud, je vous parlerai de la position, justement, par rapport à la République de ces résistants de droite de zone nord, et puis je passerai au témoignage de Lecomte-Boinet sur le 27 mai 1943, puis sur la vie du CNR en général. Et pendant les 15 mois de l'occupation, et sur l'évolution du rôle du CNR, considérable en fait, et qu'on peut relier à l'évolution globale de la résistance. Donc mon premier point, ça sera qu'est-ce que c'est que la droite au CNR le 27 mai 1943, puisqu'il s'agit d'un homme de droite et qui ne s'en cache pas. Alors, il y a une droite qui se sent faible, c'est celle des délégués des partis politiques, tout simplement. Et c'est même dans la composition de cette droite qu'on voit bien l'objectif immédiat, je dirais presque propagandiste et symbolique du CNR, de soutenir De Gaulle face à Giraud avec des noms connus. D'une part, aucun de ces trois partis de droite ne représente des structures clandestines. Il n'y a pas de parti de droite reconstitué clandestinement, contrairement au PS et au PC. Donc, ils ont surtout une légitimité personnelle, ces représentants des partis de droite. Elle est très forte, c'est Georges Bidault, qui est à la fois un authentique résistant et un ancien dirigeant du Parti démocrate populaire, des démocrates chrétiens. Elle est extrêmement faible chez Joseph Laniel, qui, d'ailleurs, dans ses mémoires, montre qu'il découvre la résistance le 27 mai 1943. Et il appelle d'ailleurs... Il dit qu'il a fait connaissance de Jean Moulin, le délégué du comité extérieur de libération du général de Gaulle. C'est un titre qui n'existe que dans les mémoires de Joseph Laniel. Ensuite, il y a un cas particulier, c'est Jacques de Mubridel, le représentant de la Fédération républicaine, qu'on a mis in extremis là, parce que tous les autres s'étaient révélés giroudistes. Et en fait, il est le très bon exemple, l'ironie veut qu'il est le très bon exemple des résistants de droite qui évoluent vers la gauche pendant l'occupation. Et du coup, c'est un peu dur de le présenter comme un pur représentant de la droite résistante dans le CNR en 1943-1944. Alors, il y a une vraie droite résistante légitime, bien entendu, au CNR. Ce sont 4 mouvements, combat en zone sud, et 3 mouvements de zone nord, ceux de la résistance, ceux de la libération, et surtout l'organisation civile et militaire, la plus importante. Les 4 incarnent une partie importante de la résistance pionnière, notamment en zone occupée, 3 sur 4, où le patriotisme germanophobe prédominait. À travers eux, on voit cependant l'importance des différences entre les deux zones. Alors que Combat, comme tous les mouvements de zone sud, n'avait guère d'autre solution pour se développer qu'un journal clandestin, les trois zones nord ont privilégié des formes d'action paramilitaires. Et d'autre part, Combat est représentatif d'une droite résistante qui, au contact immédiat de Vichy, a abandonné ses illusions sur le possible double jeu de Pétain plus vite qu'en zone nord. Car en zone occupée, non seulement il y avait un autre ennemi français prioritaire qui était les partis collaborationnistes, qui jugeaient Vichy plutôt mou, mais les premières pratiques résistantes adoptées par l'OCM et CDLL, à savoir l'aide à l'évasion vers la zone sud de prisonniers de guerre et la transmission de renseignements au service secret de l'armée d'armistice, ces actions, évidemment, se fondaient souvent sur l'espoir d'une coopération secrète entre les Anglais et une fraction de l'appareil d'État vichiste, supposée préparer une revanche militaire derrière une collaboration de façade. En 1942, CDLR s'est ajouté à l'OCM et à ceux de la Libération, le comte Boinet créant ceux de la Résistance sur les débris d'une organisation pionnière démantelée. Ces trois mouvements ont continué à privilégier l'action paramilitaire, mais désormais pour aider directement les Alliés. Car l'espoir d'un débarquement anglo-américain est en effet né cette année-là et s'est décuplé après le débarquement en Afrique du Nord. Les actions prioritaires sont alors devenues le renseignement et la recherche de terrain pour les parachutages d'armes. Ces formes d'action, bien plus que la presse clandestine, permettaient de recruter tous ceux qui cherchaient une alternative à la lutte armée en zone occupée par le Parti communiste depuis l'été 41, lutte armée qui était alors jugée unanimement trop coûteuse en représailles et à l'efficacité militaire douteuse. Et ces trois mouvements vont recevoir une forme de consécration, en fait, à l'arrivée de la mission Brossolette-Passy en février 43. Parce que dans le contexte bien précis du printemps 43, où un débarquement en métropole semble possible durant l'été, les envoyés de la France libre vont privilégier en zone nord la droite à vocation paramilitaire, comme ces trois mouvements, plutôt qu'une autre droite résistante qui existe et qui ne s'était appuyée jusqu'alors que sur des journaux clandestins. On pense à Défense de la France, bien connue, mais aussi au journal Résistance, fondé plus récemment. De ce fait, finalement, dans les cinq mouvements actifs en zone nord qui sont représentés au CNR, vous avez trois mouvements de droite. Donc la droite est d'une certaine façon majoritaire. Alors ici, je vais d'abord faire une parenthèse ou un feu clignotant nécessaire sur cette appellation mouvement de droite, mouvement de gauche. Bien entendu, tous les mouvements savent que leurs recrues de base ne sont pas recrutées comme dans un parti sur une base idéologique, mais plutôt par opportunité des contacts et surtout aussi par adhésion aux actions pratiques qu'on leur propose. Cela dit, si on classe les mouvements à droite ou à gauche à l'époque même, c'est en fonction de leurs fondateurs et de leurs principaux cadres. Parce qu'à l'époque même, ce classement se fait au fur et à mesure que les groupes tentent des rapprochements entre eux. Et en 1943, évidemment, quand on arrive à l'Union au sommet, quand les cadres dirigeants des mouvements se réunissent pour préparer l'après-libération, il est inévitable qu'ils se jaugent politiquement les uns les autres et se soupçonnent mutuellement d'utiliser justement le mode de recrutement transpartisan de leur organisation au profit d'une tendance politique. Et de fait, il n'est pas très difficile à l'époque de trouver dans la presse des deux autres mouvements de zone nord, le Libération Nord et le Front National, l'influence des socialistes et des communistes. Mais à droite aussi, l'OCM, le plus important, l'organisation civile et militaire, est marquée politiquement par la réputation de sa revue de réflexion. Parce qu'en juin 1942, l'OCM a publié un premier numéro de cette revue qui proposait, au nom de la résistance, ce qui était beaucoup s'avancer, l'élection au suffrage universel du président de la République et un statut des Juifs alternatif à celui de Vichy. Alors le problème, c'était le moment de cette publication. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était complètement à contre-temps, un, de la réhabilitation de la République parlementaire après le procès de Rion, avec tout ce mouvement dont a parlé Jean-Marie Guillon, visible en zone sud, moins visible en zone occupée, mais tout de même ce mouvement de réhabilitation de la République parlementaire. Et puis, évidemment, côté statut des Juifs proposé par l'OCM, juste avant les grandes rafles de l'été qui allaient provoquer une immense émotion populaire. Alors, je termine cette partie en présentant le comte Boinet lui-même. Parce que ces cadres de la droite résistante de zone nord souffrent malheureusement d'un déficit historiographique. Il a 38 ans en 1943, n'a apparemment jamais milité dans un parti d'avant-guerre mais s'avoue hostile à tout changement social par instinct. On peut ajouter par conditionnement familial, car sa famille côté maternelle, comme sa belle famille, la famille du général Mangin, sont fortunées et liées à la grande bourgeoisie. Il avait avant-guerre un petit travail de fonctionnaire financier modeste à la préfecture de la Seine qui correspondait à une préférence marquée pour l'administration. Par ailleurs, c'est un ancien élève de l'école libre des sciences politiques et on peut penser qu'il est peut-être déjà favorable à une professionnalisation de la vie politique par l'expertise. Par ailleurs, la politique étrangère le passionne. Il rêvait avant-guerre de devenir diplomate, ce que la résistance lui permettra de réaliser après 1945. Comme d'autres résistants de droite, il a sans doute été plutôt favorable à certains aspects de la Révolution nationale au début de l'occupation. Mais il est flou là-dessus, car l'important n'était pas là, surtout en zone nord. Fils et petit-fils de militaires morts pour la France, marié à une fille du général Mangin, qu'il a, le moins qu'on puisse dire, poussé à s'engager, il a privilégié, comme les autres mouvements de droite, la lutte pour la libération du pays à toute réforme intérieure et jugé Vichy à l'aune de sa politique étrangère. Il a condamné immédiatement la collaboration. Il a peut-être cru jusqu'au printemps 42 que Pétain jouait double jeu et préparait la revanche en couvrant personnellement les activités clandestines de l'armée d'armistice, mais plusieurs séjours en zone sud à l'été 42 lui ont dessillé les yeux. Bon, le décor étant planté, je vais passer au témoignage de Lecomte Boynest sur toute l'histoire du CNR. Première période, 1943, c'est assez clair, la droite résistante, dont Lecomte Boynest, tente de marginaliser le CNR, aussitôt celui-ci créé. Car après le 27 mai 1943, le CNR ne semble exister pendant quelques mois que par quelques tracts et motions signés de son sigle. Il ne tient pas de réunion plénière et la commission restreinte qu'il était prévu de former en son sein pour travailler en continu avec les délégations de la France libre en métropole est remplacée à l'initiative des représentants des huit mouvements par un comité excluant les partis et les syndicats, le comité central des mouvements de résistance, CCMR. J'emploierai CCMR pour abréger la durée de ma communication. La création du CCMR a une justification indéniable. Les mouvements se considèrent en première ligne pour faire face à l'afflux des réfractaires du STO et transformer ceux-ci en combattants dans l'hypothèse d'un débarquement allié toujours pas écarté pour 1943. Mais cette création est aussi une façon, pour les cadres de tous les mouvements, de revendiquer le monopole du choix des élites destinées à exercer le pouvoir dans l'après-libération face aux partis et syndicats traditionnels jugés défaillants avant et après la défaite. Cela dit, ce sont les mouvements de droite qui poussent le plus à la création du CCMR. Et c'est sans doute parce qu'au sein de cet organisme, la parité droite-gauche semble préservée, ce qui révèle en creux leur crainte qu'au CNR, ce ne soit pas le cas. Alors évidemment, au CNR, il manquait déjà le principal parti de droite, le PSF, le Parti Social Français, trop compromis avec Vichy. Cette crainte d'un CNR trop à gauche, on peut en trouver une trace dans le témoignage de Lecomte Boynest sur la séance du 27 mai 1943. C'est le témoignage le plus complet qui est sur cette séance où il y a eu beaucoup de débats. Et il est le seul, à ma connaissance, à signaler qu'en fin de séance, le représentant de l'OCM, Simon, a accusé Jean Moulin d'outrepasser sa mission. Et l'OCM envoie ensuite à Londres un rapport sous-entendant assez clairement que ce préfet très lié au Parti radical est soupçonné de favoriser le retour du personnel politique de gauche d'avant-guerre. Alors, Lecomte Boynest, lui-même, dans ses mémoires, se présente comme personnellement en retrait dans la création et la vie du CCMR. Il dit même « j'étais pas assez intelligent, je suivais pas les débats, etc. Bon. » En fait, c'est surtout parce qu'il a gardé un mauvais souvenir du CCMR, parce qu'à cette occasion, il n'a pu que constater un phénomène inattendu, à savoir que les mouvements unis de résistance de zone sud étaient bien en avance sur la zone nord, sur beaucoup de plans, en termes de structuration interne, de services communs à inventer pour la résistance, mais aussi de travail commun avec la résistance communiste et de réflexion politique sur l'après-libération. Alors cela dit, tout modeste et inintelligent qui se présente, Lecomte Boynest, il n'est nullement resté passif et a su assumer son tropisme droitier, partisan d'une droite modérée, et notamment en s'investissant dans la désignation des futurs préfets de la libération et en projetant même une revue de réflexion. Alors en octobre 1943, rupture, pour lui, il part représenter son mouvement à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, puis séjourne 2 mois à Londres. Or, il découvre à cette occasion les luttes internes au Comité français de la Libération nationale qui résultent de l'union entre la France libre et le pouvoir girondiste d'Alger, largement composé de déçus de Vichy. Et il constate que ces luttes occasionnent une surenchère anti-vichiste au sein de l'Assemblée provisoire, où il représente son mouvement, comme au sein de l'entourage de De Gaulle et des bureaux londoniens.
Et lui, homme de droite, il voit une manœuvre d'homme de gauche voulant marginaliser la droite en vue de la prélibération. Alors malheureusement pour lui, ce qu'il ne voit pas, c'est que ce discrédit des giraudistes reflète une tendance analogue en métropole, où les idées et le poids de la gauche progressent dans la résistance. Alors je n'ai pas le temps d'en détailler les multiples raisons, mais j'en résumerai juste une. Le discrédit total de Vichy, désormais confondu avec la droite collaborationniste, profite au Front populaire, dont il avait fait le bouc émissaire de la défaite, et surtout au Parti communiste, dont les martyrs incarnent la collaboration de Vichy avec l'occupant. Et c'est d'ailleurs le Parti communiste, conscient de sa popularité croissante, qui va pousser à transférer en novembre 1943 les pouvoirs du Comité central des mouvements de résistance à un bureau du CNR, où le mouvement qui relaie, qu'il contrôle, le Front national, pèsera bien davantage. Hein, parce que c'est au bureau du CNR, le FN va peser 1 sur 5, alors qu'il ne pesait qu'un sur 8 au CCMR. Et cette petite modification au sommet est en fait le signe d'un grand tournant à la base même de la résistance, même dans l'audience de la résistance. J'en arrive donc à ma troisième partie, qui est la deuxième période du CNR en 1944, une période où la droite doit accepter son statut minoritaire, mais où elle finit par y trouver sa place dans un CNR au pouvoir étendu, qui se révèle un instrument de la refondation républicaine. Quand Lecomte Boynet revient en métropole début février 1944, la co-direction de l'action résistante est maintenant exercée conjointement par la délégation générale en métropole du Comité français de la libération nationale d'Alger et le bureau du CNR. Celui-ci penche à gauche, puisque Bloc Mascar pour l'ECM est le seul à représenter deux autres organisations de droite, ce CDLL et CDLR. Or, ce basculement à gauche s'est concrétisé, là il le voit tout de suite, pendant l'absence de Lecomte Boynet, par l'élaboration du programme du CNR. Mais comme l'a dit Claire Andrieux, on voit dans le journal de Lecomte Boynet que Jacques-Henri Simon de l'ECM et lui considèrent que sa deuxième partie n'a pas d'importance, parce que selon eux, la résistance ne pourra jouer un rôle dans l'après-libération qu'en imposant ces hommes dans les partis existants. Et puis surtout, comme beaucoup des résistants, ils sont dans le brouillard sur l'opinion profonde et ne prévoient évidemment absolument pas que le PC et le PS vont récolter plus de 50% des voix dans l'après-libération. Alors, juste une petite parenthèse là aussi, tous les résistants sont dans le brouillard à ce sujet. Mais eux, qui ont des partis qui n'ont jamais eu de presse clandestine, ils ont peut-être justement manqué d'antenne au sein même de leurs organisations, pour appréhender mieux ce basculement à gauche de la résistance. Alors, comme je dois abréger, je passerai sur le fait que en février-mai 1944, les trois mouvements de zone nord dont je vais parler ont tenté de s'unir entre eux, et puis ont échoué, donc à bord de la libération en ordre divisé sur le plan politique. Mais j'en viens à ce qui va faire que la droite va se réincarner, malgré tout, comme une pleine composante du CNR dans la période insurrectionnelle. Après le débarquement de Normandie, on entre en fait dans une nouvelle phase où les débats au sein du CNR sont dominés par les questions d'emploi des FFI et de mobilisation du reste de la population, bref, par le degré d'engagement des forces de la résistance. Si vous préférez, c'est la première partie du programme du CNR, celui auquel, d'ailleurs, la droite était tellement hostile, en fait, qui va la mobiliser? Or, les clivages qui se révèlent dans cette période dramatique ne sont pas des clivages droite-gauche, que ce soit au CNR proprement dit ou dans sa commission chargée des affaires militaires, le COMAC. Si les responsables communistes défendent invariablement une position maximaliste, l'opposition et le soutien qu'ils reçoivent varient considérablement suivant les sujets à aborder. Premier exemple. En juillet, quand le communiste Villon défend la création d'un conseil central des ministres patriotiques, piloté par le Front national, tout le reste du bureau du CNR s'y oppose, car ce nouveau conseil semble transférer au PC le contrôle des milices patriotiques dévolues jusqu'alors aux comités locaux de libération qui ont été créés sur le modèle du CNR. Le sujet est suffisamment grave pour que ce désaveu soit confirmé lors d'une deuxième réunion du bureau après que le reste du CNR ait été consulté, et même plus qu'une deuxième réunion, je crois. Et à cette occasion, comme le note Lecomte Boynet, Bloc Mascar, l'OCM, qui n'a pas consulté pendant plusieurs semaines les deux autres mouvements, parce qu'il prenait des positions personnelles au bureau du CNR, Bloc Mascar rentre dans le rang et consulte bien les deux autres mouvements dont il est le mandataire. Deuxième exemple, la question des positions prises par le COMAC en cet été 1944, qui est un débat houleux. Ce débat n'est pas simplement intense parce que Les circonstances font que ce COMAC de trois membres est composé de 2/3 de communistes. C'est aussi et surtout parce que le troisième homme, Jean de Vogüé, qui représente les mouvements non communistes de zone nord, se révèle souvent aussi maximaliste que ses deux collègues, quoi qu'il soit de droite, et d'ailleurs l'adjoint de Lecomte Boynet à CDLR. Comme eux, comme les deux communistes, il soutient un engagement maximal des forces résistantes et veut que le commandement des FFI soit exercé par le COMAC et non par les délégués militaires régionaux obéissant au général Koenig à Londres. Le journal de Lecomte Boynet montre que, comme dans le cas de Bloc Mascar, ses mandants l'accusent de prendre des positions personnelles et veulent révoquer son mandat. Mais ici, Libération Nord est d'accord avec les trois mouvements de droite. L'affrontement se transporte et s'amplifie au bureau du CNR lors d'une séance très tendue où Bloc Mascar pour la droite et Saillant pour la gauche non communiste demande le changement de la composition du COMAC. La crise va nécessiter des consultations internes à tout le CNR, loin d'être limitée aux entretiens entre les mandataires et les mouvements ou partis qu'ils représentent. Ainsi, Lecomte Boynet rencontre le socialiste Daniel Mayer, Debut Bridel, Villon lui-même. Et à l'issue de ces échanges, sur le fond des positions du COMAC, les quatre mouvements de zone nord vont changer de position sur un point fondamental, droite et socialiste de Libération Nord confondus. Ils concéderont au COMAC le pouvoir de prendre des initiatives sur le terrain et le droit de se faire obéir des délégués militaires régionaux. Et cette concession sera reprise dans le texte adopté par le bureau du CNR. Alors, si je vous détaille ce changement de position, c'est parce qu'il est lié aux circonstances. La percée des alliés en Normandie. Et ça montre bien que dans cet été où les débats sont dramatiques, les positions de la plupart des acteurs se fondent sur les circonstances bien plus que c'est des positions a priori idéologiques ou autres. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec le débat sur la trêve pendant la libération de Paris, que je ne vais pas évoquer en détail, mais simplement pour vous montrer la forme de ce débat qui montre que le CNR va monter encore d'un cran dans son rôle d'acteur de la résolution des conflits. Parce que la trêve, en fait, est négociée dans l'urgence, au soir du premier jour de l'insurrection, hors CNR, mais tout un processus s'enclenche. Le lendemain, le bureau restreint du CNR approuve la trêve, mais seulement par une majorité. Du coup, une séance plénière se tient l'après-midi, où on se redivise, mais il n'y a pas les négociateurs de la trêve, donc on suspend la décision. Le surlendemain, une deuxième séance, alors là, la plus houleuse, la plus célèbre, se tient et ne résout le conflit que parce qu'on a auditionné le COMAC, c'était ce qu'on peut appeler la commission militaire du CNR. Or, dans cette audition du COMAC, Villon, le communiste, a argumenté pour qu'il soit auditionné. Le journal de Lecomte Boynet nous apprend que lui, Lecomte Boynet, homme de droite, a trouvé légitime et a appuyé Villon pour cette audition. La conclusion de cette année 1944 pour le CNR, c'est qu'il parvient à s'affirmer comme l'instrument de la refondation républicaine en pleine clandestinité, malgré un fonctionnement loin d'être huilé entre ses membres, comme on l'a vu, puisqu'il y a certains membres qui prennent des libertés avec la consultation de leurs mandants. La droite a d'abord contribué à cette réussite en signant un programme dont elle n'approuvait pas la partie concernant l'allée pré-libération, sans doute parce qu'elle accordait bien plus d'importance à sa part militaire et à la nécessité de préserver l'unité au sommet de la résistance dans ce contexte, et surtout les débats militaires transpartisans qui l'ont agité durant l'été 44, ont entraîné une intensification des délibérations internes au CNR, malgré les risques. Et de plus, ces débats ont été à chaque fois tranchés par le pouvoir civil, après consultation du pouvoir militaire. Le CNR a ainsi incarné le consensus de tous ses membres pour incarner un pouvoir conforme à la tradition républicaine.
Merci Bruno Leroux. Nous voyons donc que finalement les affaires du CNR étaient bien celles de la République et du parlementarisme, en réalité.
Même audio, une mémoire sonore.
Mesdames, messieurs, nous sommes parfaitement à l'heure dans notre timing. Nous avons donc le temps de quelques questions et je réitère mes vœux de ce matin sur les questions, des questions, uniquement des questions. On aura le temps d'échanger à l'issue de cette journée.
Merci beaucoup pour vos interventions. Alors moi, je vais avoir une question d'historienne, mais moderniste. Parce que le CNR, j'ai un peu l'impression d'être dans un concile de Trente qui marcherait plus ou moins bien. Et donc les décisions qui sont prises, bien compris par les différents représentants des mouvements, est-ce que, et je pose toujours la question des sources, mais en fait, vous en avez beaucoup trop pour moi. Est-ce qu'on arrive à savoir le temps où il y a les premières réunions et jusqu'au moment de la libération, voire un petit peu après? Est-ce qu'on a des retours de terrain par rapport aux premières décisions, notamment sur les programmes? Voilà. Est-ce que c'est envisageable, comme, je ne sais pas, c'est pour tous les trois ou peut-être un petit peu plus pour Claire Andrieux, est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans les sources sur ce retour plus local, en fait?
Alors, on pourrait parler, par exemple, de la diffusion du programme du CNR. Il a été peu diffusé sous l'occupation. Il y a une édition qui avait été préparée par Libération Sud, sous le faux titre « Les jours heureux », de manière à que ça puisse se diffuser sans alerter les autorités de l'époque. Le seul journal qui, à ma connaissance, l'a publié le programme complet, c'est Libération Sud. Sinon, les autres journaux l'ont évoqué, ont signalé son existence avec quelques extraits. Mais ce n'est pas du tout le succès de diffusion qu'on pourrait imaginer. Et pourtant, après la guerre, d'anciens résistants, par exemple Serge Rabanel, qui était à Toulouse, se disait parfaitement au courant de l'existence du programme. Donc, je tente à penser que ce n'était pas si diffusé que cela, et que l'important pour les membres du CNR, c'était de l'avoir mis en place. Et quant à la diffusion des instructions du CNR, d'abord, il n'y en a pas eu tant que cela. Et les instructions, c'était une diffusion assez largement symbolique, parce qu'en vérité, il n'y a pas de communication, comme je disais, dans la résistance. Et par exemple, je me souviens en quel mois c'était après le débarquement. Le COMAC envoie Marcel de Gliam, qui avait intégré le CNR en succédant, je crois, si je ne me trompe, à Claude Bourdet, qui était arrêté, envoie en mission Marcel de Gliam pour préparer l'insurrection. Et Marcel de Gliam revient un bon mois après. Mais entre-temps, les circonstances ont tellement changé que les instructions dont Marcel de Gliam avait pu être porteur étaient complètement inadaptées. Donc, pour ma part, je crois qu'il ne faut pas imaginer le CNR comme un quartier général d'une armée régulière en campagne. Hein. C'est pas ça. C'est plutôt de l'ordre du symbolique. Je ne sais pas si Bruno ou Franz...
Enfin, moi, je peux parler... Justement, pour l'été 44, justement, j'ai parlé sans doute de façon très allusive de la querelle dite du COMAC. La querelle du COMAC, c'est les responsabilités, l'exercice des responsabilités dans une guerre de libération nationale vis-à-vis de la population. C'est pour ça que je dis que les communistes sont réputés maximalistes, parce qu'en gré, ils se battent, il faut se battre le plus possible, appel à la population à se battre, etc. D'autant plus que le général de Gaulle a cautionné ça par son appel le 6 juin. Bon. Mais en gros, tactiquement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le vrai problème, c'est que cette querelle du COMAC, elle a lieu au sommet entre la résistance et notamment la délégation générale, parce qu'il y a à Londres un état-major FFI, le général Koenig, qui prétend actionner aussi la résistance par des délégués militaires régionaux. Et alors, à travers justement le témoignage de Lecomte Boinet et des archives du COMAC, on voit que ils font le yo-yo, comme de Gliam. Jean de Vogüé, de droite, est maximaliste, parce que c'est un ancien officier de marine qui était en juin-juillet 40 en Angleterre, au moment de Merseyl-Kébir, etc. Et donc il a vécu deux fois la honte de 40, la défaite allemande, et puis aussi la honte vis-à-vis des Anglais. Il a une vision maximaliste de l'action résistante. Bon. Sauf que, donc il est pour que ce soit le COMAC qui commande depuis la France. Mais quand il se rend, au moment du 6 juin, dans une région, on lui dit on n'a reçu aucune instruction du COMAC. Les instructions n'arrivent pas. Il revient dépité le 14 juin, et il apprend, peut-être une petite satisfaction, que le général Koenig non plus n'est pas en connexion avec la France, parce que le général Koenig, au moment du débarquement, n'a pas été tenu au courant par Eisenhower que Eisenhower lançait toute la résistance dans l'action. Il a lancé, Koenig a voulu freiner l'action de la résistance, donc il s'est discrédité en 7 jours. Donc, pour de Vogüé, ça réhabilite le Comac. Il se dit, bon, bah, c'est bien à nous de commander. Mais au moment où, où la capitale s'insurge, le Comac n'a toujours pas de liaison radio interne en France avec les régions. Donc cette querelle du Comac, au sommet à Paris, elle a un aspect moral, parce qu'ils veulent tout de même exercer, se dire qui doit commander, qui doit donner l'ordre, qui est responsable du fait que la résistance s'expose, en fait. Bon. Mais là, tout de même, un vrai but politique, c'est qu'ils sont tous à Paris, et que le vrai enjeu, c'est tout de même la libération de la capitale. Et c'est pour ça que la tension maximale va arriver dans la capitale, quand il y aura en même temps le CNR, la délégation générale, et qu'ils seront responsables vraiment de la population parisienne.
Il y a toujours un combat pour savoir qui commande. Mais dans le prolongement de votre question, petit élément local qui est clair, qui va dans le sens des réponses qui vous ont été apportées, ce qui me permet de saluer aussi nos amis de l'ARAC, la délégation qui nous a rejoints cet après-midi, ainsi que le comité culture du PCF et l'Institut d'histoire sociale de la CGT qui sont avec nous. Si j'évoque cela, c'est parce qu'à Toulouse, à la Libération, ce qui montre la question de la connaissance précise ou non du programme du Conseil national de la résistance, les jeunes communistes, par exemple, remettent au commissaire de la République, au préfet Berthaud, alors au commissaire Berthaud, des revendications qui tiennent lieu d'un programme pour la jeunesse. Donc on voit bien que ce programme du Conseil national de la résistance est soit encore discuté, soit encore pas tout à fait connu nécessairement de partout. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, encore un très très grand merci à notre premier panel de l'après-midi.
Oui,
oui, tout à fait.
Même audio, une mémoire sonore.